Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Eve.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler pendant une heure d'un sujet tabou. Les couples qui ne font pas ou plus l'amour. Beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, ces couples sans sexualité n'en parlent pas ou très peu autour d'eux parce que dans notre société où le sexe est partout, dans la publicité, les films ou les magazines, ne plus faire l'amour, eh bien c'est presque honteux. Et pourtant, tous les sexologues le disent, après les deux ou trois premières années, où pour beaucoup c'est le feu d'artifice, 13 rapports sexuels en moyenne par mois, eh bien souvent le désir s'étiole au fil des années pour parfois disparaître totalement. Mais on le sait, le désir aussi est capricieux, il va, il vient. Et si certains couples résistent à l'usure du temps, d'autres sont les victimes du stress de la vie quotidienne, de la routine, l'habitude des corps qui se connaissent par cœur et la difficulté de retrouver les premiers émois. La baisse du désir dans le couple est-elle inéluctable? Faut-il lutter contre ou alors l'accepter? Peut-on vivre heureux en couple sans faire l'amour? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure, nous attendons vos témoignages. Racontez-nous comment la sexualité est sortie de votre vie, de votre lit et comment vous le vivez. Nous sommes là pour vous écouter.
Et pour joindre Eve Roger, appelez au standard d'Europe 1, le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Eve Roger.
J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de
et donné, battez-vous. C'était le duo féminin Brigitte pour débuter cette émission, Eve.
Nous sommes en ligne avec Alexandra. Bonjour Alexandra, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour à tous, merci.
Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 48 ans et j'appelle de Dijon.
Alors Alexandra, vous êtes mariée depuis 18 ans avec le même homme et vous n'avez pas fait l'amour depuis 8 ans. Comment c'est arrivé? Petit à petit?
Alors c'est arrivé petit à petit. Quand je l'ai connu, je me suis dit que j'étais tombée sur un Don Juan. C'était extraordinaire. On s'entendait très très bien sur ce plan-là. Et petit à petit, ça s'est effiloché jusqu'à disparaître complètement.
Et pourtant, vous dites, vous saviez que votre mari n'était pas tellement porté sur la chose puisque son ex-compagne l'a quitté à cause de ça.
Exactement. C'est ce qu'il m'avait confié un jour en me disant, voilà, je ne l'ai pas touchée pendant 3 mois, du coup, elle est partie. Sur le coup, ça ne m'a pas plus alertée que ça et je me suis dit, bon, ben, ça peut arriver. Et la vie étant, ben, voilà, on a continué à se voir, on est sortis ensemble et jusqu'à au jour où on a habité ensemble. Et puis, tout allait bien. Et puis, je vous dis, petit à petit, effectivement, ça s'est un petit peu effiloché. Non pas de ma part, mais plutôt de sa part, qui est plutôt... Parce que souvent, dans les émissions, on entend que c'est les femmes qui ne veulent plus. Et là, en l'occurrence, c'était lui.
Alors, comment il explique? Qu'est-ce qu'il dit?
Mais il dit qu'il n'a pas cette appétence-là, qu'il n'a pas ce besoin. Moi, au bout d'un moment, ça m'a pesé un petit peu parce qu'à chaque fois, il me disait « Oui, mais c'est le stress du travail, j'ai pas la tête à ça », ce qui était vrai parce qu'il s'installait et à son compte. Et donc, je mettais ça sur ce compte-là et au bout de plusieurs années, je me dis « Non, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et j'ai eu le courage, parce que je n'osais pas trop non plus l'aborder de peur de je ne sais pas quoi, de peur peut-être de ma réaction, de partir.
Ouais.
C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé. Et comment dirais-je? Et au fil du temps, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que tu le fasses.
Que vous fassiez quoi? Ah oui, que vous parliez avec lui.
Poser la question et puis lui dire...
Qu'est-ce qui se passe?
On en parlait régulièrement, mais souvent, il se braquait. Et je me dis, ben là, peut-être qu'on a besoin d'une aide. Et là, je lui ai dit, voilà, c'est simple, c'est soit on va voir quelqu'un, soit moi, je te quitte.
Et c'était il y a combien de temps, ça?
Oh, il y a un an et demi.
D'accord.
Un an et demi, 2 ans, je ne sais plus.
Et alors?
Et alors, ben, on y est allé, effectivement. On a fait quelques séances, mais...
C'était un sexologue?
Oui, c'était un thérapeute. Oui, c'était un sexologue, oui.
Un thérapeute de couple? Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
À moi, rien, parce que moi, je parle très facilement. mon conjoint parle un peu moins facilement, donc il a abordé le sujet. Mais en fait, c'est comme si il me mettait sur un piédestal et du coup, ça le bloquait, soi-disant. Enfin, voilà,
c'est après. Est-ce que ça a amélioré les choses après?
Non.
Ça n'a rien changé?
Il s'est juste effondré en me disant qu'il m'aimait énormément, mais ça n'a pas...
Ça n'a rien changé, mais comment vous vivez, vous, ça, cette abstinence sexuelle? Qu'est-ce que ça vous procure?
Au début, C'était de l'acceptation parce que il mettait ça sur le compte du stress. Ensuite, c'était du doute. Par la suite, de la frustration. Et maintenant, je rebascule dans l'acceptation parce qu'il y a vraiment ce qui fait qu'on tient encore en tant que couple, c'est qu'on a un respect mutuel. On échange énormément. Et je me dis, voilà, est-ce que ça vaut le coup de partir, sachant qu'à côté de ça, c'est quelqu'un que j'aime énormément, on s'aime énormément, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité, on a une vie sociale qui est très riche.
Et l'absence de sexualité ne gâche pas ces autres moments-là?
Ben, gâcher, ça serait mieux avec, ouais. Mais gâcher, non.
Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir ailleurs, justement, pour combler cette frustration?
Tout à fait.
Et alors?
Parce que, bon... Que ce soit lui ou moi, on est assez jolis, on va dire.
Et physiquement, coup, vous voulez dire, vous êtes beau?
Oui, physiquement, oui. Et disons que je suis assez sollicitée. Ouais. Et mais je me dis, il y a une fois, j'ai failli craquer et je me dis, oui, mais non. Je me dis, mais non, j'ai pas le courage.
Mais pourquoi? Parce que vous en aviez parlé ensemble avec votre mari. Est-ce que vous aviez dit, si jamais l'occasion se présente, est-ce que je peux faire l'amour ailleurs?
Je lui ai dit, écoute, si ça continue comme ça, moi, je suis pas une nonne, donc moi, j'ai des besoins, par contre, que tu n'arrives pas à combler. Je peux l'entendre, mais par contre, il faut que moi, je puisse... Je ne vis pas avec un curé, donc voilà.
Et alors?
Et il m'a dit, bah écoute, il me dit, je ne veux surtout pas le savoir. Parce qu'il me dit, si je le sais, il dit, ça arrêtera tout.
Et donc, finalement, vous avez été sollicitée, mais au dernier moment, vous n'y êtes pas allée?
Ben oui, parce que malgré tout, ben y a ce côté fidèle, il y a nos valeurs qui ressurgissent, et puis ben malgré tout, j'y arrive pas.
Est-ce que vous êtes attachée à la fidélité?
Exactement.
Ah oui, alors donc, exactement. Est-ce que vous disiez, vous avez quand même ensemble de très beaux moments de couple, et on a l'impression quand même que votre attachement entre vous pèse plus lourd que l'absence de sexualité finalement?
Exactement, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est il y a malgré tout, ce serait la cerise sur le gâteau, on va dire, s'il y avait cette sexualité-là. Mais n'étant pas là, le gâteau est quand même bon, vous voyez?
Je comprends. Ça veut dire qu'on peut dire que vous êtes heureuse en couple, Alexandra?
Alors, je suis heureuse en couple, oui.
Sans sexualité?
Sans sexualité.
Alors, en même temps, vous le dites avec une petite voix. Est-ce que vous imaginez ne plus jamais faire l'amour jusqu'à la fin de votre vie?
Oh, non. Ah. Non. Après, je ne fais pas de plan. C'est-à-dire que je ne me mets pas une pression non plus. Je me dis, voilà, pour l'instant, je vis ce que j'ai à vivre. Peut-être que l'occasion se représentera devant moi et que j'aurai peut-être aussi mûri et que je m'autoriserai à franchir le pas. Mais en fait, si je ne le fais pas, je crois que c'est parce que j'ai peur de mes réactions. C'est-à-dire que j'ai peur de m'attacher à l'autre personne.
Ah oui.
et du coup, que ça me fasse...
Et de mettre votre couple en péril.
Exactement.
Alors merci infiniment Alexandra de nous avoir fait partager votre expérience. C'est pas facile de parler de ces choses-là publiquement. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Amandine. Elle n'a que 32 ans et elle va nous raconter comment le désir sexuel a beaucoup fluctué au sein de son couple.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute. Et pour nous laisser un commentaire via les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter et la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Se donne. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi encore.
La caresse d'une voix, celle d'Elena Noguera qui nous chante Caresse-moi pour poursuivre cette émission Ève Roger. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Cet après-midi, on se demande si le bonheur dans le couple est inhérent à la sexualité. La baisse du désir est-elle inéluctable? Peut-on vivre heureux à deux sans faire l'amour? C'est le sujet du jour. On vous attend au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Amandine. Bonjour Amandine, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour,
quel
merci
âge
de m'accueillir.
Quel âge avez-vous Amandine et d'où nous appelez-vous?
Donc 32 ans et j'habite près de Dunkerque.
Alors vous avez une histoire sexuelle assez chaotique avec votre mari avec lequel vous vivez depuis 14 ans. Au début, quand vous êtes rencontrés, vous aviez 18 ans et vous faisiez l'amour très souvent, 3 ou 4 fois par semaine, c'est bien ça?
Oui, la passion de la jeunesse, oui, on est d'accord.
Mmh. Mmh. Et puis petit à petit, vous avez commencé à être plus en demande que lui, racontez-nous.
Oui, voilà. Et puis
en gros, c'est-à-dire que vous faisiez plus que l'amour qu'une fois par semaine, ce qui est déjà pas mal, hein?
Oui, ce qui est déjà pas mal, mais à 22 ans, ça fait peur.
Et de quoi aviez-vous peur?
En fait, j'avais peur que ce soit le début de la fin, en fait. Mais naïvement, puisqu'en fait, j'ai que 22 ans, ça fait que 4-5 ans qu'on est ensemble, c'est le début du début. Mais ça, voilà, j'avais peur que ce soit le petit à petit que ça allait s'étioler, et à la fin, il ne reste plus rien.
Et à ce moment-là, vous avez été très en demande, donc ça a créé des tensions entre vous, donc ça ne devait pas améliorer les choses.
Bah, exactement. Ah non, je l'ai vraiment, enfermé dans une bulle. Alors, je demandais tout l'inverse, mais avec mon comportement, ça a fait qu'il ne savait plus comment agir.
Et vous avez même failli rompre à ce moment-là?
Et ben pour moi, dans ma tête, c'était un motif de rupture.
Et donc, on peut dire que d'une certaine façon, l'arrivée des enfants a un peu rétabli l'équilibre entre vous, puisque c'est vous à ce moment-là qui avez dit « Oh là là, pas trop souvent parce que je suis fatiguée ».
Bah oui, mais oui. Et donc justement, en fait, c'est le paradoxe de parfois on veut, justement, typiquement, je trouve chez les femmes, on veut le garçon qui a du charisme, qui nous plaque au mur, et ça tous les jours. Tandis que là, j'étais bien contente d'avoir justement aussi l'homme qui me comprenait, qui prenait son temps, qui prenait en compte mes désirs, ou non, d'ailleurs.
Ouais.
Et puis, là, j'ai réussi à avoir tout ça, quoi.
Mais dites-moi, pourquoi vous aviez-vous moins envie?
Ah, moi, c'était vraiment après le quotidien. C'est juste, j'ai envie de dormir.
Ouais.
J'ai envie de me poser, de dormir.
À cause des enfants, essentiellement.
Et puis du travail. Enfin, j'ai un travail qui est assez physique.
Mm-hmm.
Et donc, c'était vraiment tout ça. C'était ce quotidien, oui, le pur quotidien qui est sympa, hein, mais qui est...
Et c'est ça qui a fait baisser votre libido, selon vous? C'est cette vie quotidienne, c'est la difficulté du travail, de la vie professionnelle?
Oui, moi je pense.
Mm-hmm.
Moi je pense. Et par contre, à côté de ça, à l'inverse du moment où moi j'avais plus envie, notre libido avait diminué, mais on savait qu'on avait envie de l'un de l'autre. Il pouvait nous arriver de nous coucher en nous disant, moi en lui disant, tu sais, j'ai envie de toi, mais je suis vannée. Et lui, allez, on fait dodo, hop, on se colle l'un à l'autre, et puis...
Et puis on verra ça la prochaine fois. C'est ça,
mais
à force, vous faisiez quand même l'amour de temps en temps?
Ouais. Assez pour qu'on garde le lien, mais pour parfois, franchement, ça passe si vite, ça pouvait toutes les 3 semaines, quoi.
Mais d'une certaine façon, vous aviez gagné quand même pas mal en sérénité. Vous saviez que vous aviez envie, que c'était possible, et c'était ça qui comptait.
Oui, on savait que c'était possible. En fait, et on a toujours gardé par contre les gestes de tendresse, les bisous, les mains sur l'épaule, vraiment toute la tendresse et la complicité.
Mmh. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, à un rythme assez tranquille, si c'est une fois toutes les 3 semaines, vous n'avez plus la même angoisse qu'au début?
Moi je pense que vraiment c'est l'âge. C'est l'âge et puis le fait de tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, où justement à 22 ans, on va croire qu'il faut toujours faire l'amour, et puis de mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus vite. Enfin, vous voyez, moi je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que en fait, je voulais témoigner aussi sur ça, parce que c'est pour déculpabiliser, décomplexer. Enfin, moi j'ai l'impression avec mon mari qu'on vit un marathon, quoi. Donc... un marathon, il y a des coups de mou, il y a des coups, ce sera, on sait plus souvent, plus. Mais il y a toujours cette spontanéité, il n'y a pas de pression, il n'y a plus de pression.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez rester ensemble sans même avoir de relations sexuelles, ou quand même il faut un minimum?
Non, je ne pense pas, parce que je pense que ça fait partie du couple.
Mmh. Et maintenant, vos enfants, vos enfants vont grandir, vous dites, vous n'avez pas dit votre dernier mot, parce que vous dites peut-être que ça va reprendre de plus belle.
Moi j'ai sentiment, vous vous retrouvez à deux dans la maison, quoi, il n'y a plus personne pour derrière la porte, alors forcément pour moi ça va être le sentiment de liberté. Alors, parce que là en l'occurrence c'est vraiment, pour tout vous avouer, là, il y a 48 heures on a fait l'amour et juste après j'entendais un « maman ». Donc bon, vous voyez,
c'est pas très pratique.
C'est deux histoires de vie différentes, quoi.
Ouais.
Mais oui, voilà, c'est ce que je me dis. Je vois loin, en fait. C'est ça qui me rassure aussi.
Donc, d'une certaine façon, l'amour, vous êtes plus tranquille. Et en même temps, c'est un peu, malgré tout, le ciment de votre couple.
Ouais.
En tout cas, merci. Ouais. Merci mille fois, Amandine, pour votre témoignage qui reflète sans doute la vie de beaucoup de nos auditeurs en couple qui ont des enfants en bas âge et qui travaillent beaucoup. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec André Cormand, médecin sexologue et directeur de l'enseignement de sexologie à la Fac de Toulouse.
Le témoignage d'Amandine a fait réagir Noémie. Elle nous dit « Après 14 ans de mariage, il ne se passe plus grand-chose sous la couette, mais nous restons très complices. J'aime trop mon mari et tout ce que nous avons construit toutes ces dernières années pour décider de tout abandonner. »
Europe 1.
N'hésitez pas à nous contacter au standard Europe 1 39-21 pour intervenir, on vous attend. Vous pouvez également nous laisser un petit message sur la page Facebook de l'émission.
15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1.
Viens par ici, cheval fumant. Viens dans le giron de maman. À la lumière de mon tison, tu as des airs de grand bison. Approche un peu, cheval puissant. Prends le chemin le plus glissant. Ton gouvernail est le dessert dont rêvent toutes les femmes corsaires.
L'un des titres les plus torrides de Jeanne Chéral, Cheval de feu. Elle s'est d'ailleurs beaucoup amusée à raconter de façon métaphorique un acte sexuel. Et on va rester dans le thème. Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1. On parle des couples sans sexualité parce que le désir petit à petit s'est étiolé ou parce que le sexe n'a jamais été une priorité et parce qu'on a bien d'autres intérêts en commun. On attend vos appels au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Alors je m'adresse à vous, André Cormand. Vous êtes médecin sexologue à Toulouse et co-auteur de Fantasmes, ce dont rêvent les femmes aux éditions Ballant. Bonjour et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour Ève Roger.
Alors déjà, est-ce qu'on a une idée du nombre de couples qui ne font pas ou plus l'amour ? Est-ce que vous en voyez beaucoup dans vos consultations ?
Alors, je pense que c'est sympathique de participer à cette émission parce que c'est une émission de vérité. C'est-à-dire qu'au fond, on assiste aujourd'hui à un vrai décalage entre la vision qu'on se fait de la vie sexuelle des gens, on a toujours l'impression que c'est formidable ailleurs et que c'est modeste chez soi. Et pour vous donner un exemple, les deux témoignages qu'on vient d'avoir, aussi bien celui d'Alexandra que celui d'Amandine, moi c'est 10 consultations par semaine. Donc c'est extrêmement courant. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu une opération de vérité. Parce qu'on a cette impression, par contre, que quand on fait des études, vous le disiez au début, c'est tellement fort l'idée aujourd'hui qu'on doit avoir une sexualité épanouie que on est quelque part un peu dans la honte et donc dans le déni. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, quand on a des études, on est toujours dans des chiffres pharaoniques.
Oui, le nombre de rapports sexuels par 95%, mois.
Oui. Mmh. Les rapports sexuels, etc. On a quand même l'impression, quand on est dans mon cabinet, que c'est un peu exagéré.
Et dites-moi, vous justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les causes de cette baisse du désir ? Est-ce que cette baisse du désir est aussi inéluctable dans tous les couples ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs causes après, quand on rentre dans le détail, mais de façon générale, il faut comprendre que le désir est un acte. C'est Spinoza qui dit ça, il dit le désir est un acte, certes de l'esprit, mais c'est un acte. Ça veut dire qu'au fond, le désir va fluctuer. Dans le début de la rencontre, on le voit aussi bien chez Amandine que chez
Alexandra,
on voit très bien qu'au départ, l'amour est érotique. C'est-à-dire qu'au fond, l'amour donne le désir de l'autre. Mais c'est le désir de l'autre. Et ce désir amoureux, avant qu'il ait pu trouver une autre langue pour s'exprimer, la vie quotidienne, faire des choses, construire, au début, c'est le sexe qui est au premier plan de la relation amoureuse. Mmh. Et à ce moment-là, le désir est complètement automatique. Le simple fait de se retrouver dans les bras de l'autre donne du désir. Et puis, vous le voyez très bien dans les témoignages, mais je pense que tout le monde le sait, on enfonce des portes ouvertes. Quand on dit l'amour dure 3 ans, c'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'après, l'amour devient un sentiment, ça devient autre chose, ça se nourrit de complicité, de choses qu'on fait ensemble, la famille, la maison, enfin les projets de vie. Et au fond, le sexe, à ce moment-là, le désir sexuel n'est plus automatique, n'a plus cette spontanéité.
Alors, et comment on l'alimente à ce moment-là, alors ?
Alors, à ce moment-là, il faut l'alimenter. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le désir devient une activité, devient une sorte de travail. C'est-à-dire que Et comme, en plus, ce qu'il y a de compliqué, c'est que, bien entendu, que l'amour, c'est très supérieur au sexe. Donc, ça devient compliqué parce qu'au départ, il y en a toujours un. Il y a toujours ce déséquilibre. C'est-à-dire qu'on voit toujours qu'il y a plus de désir chez l'un que chez l'autre, ou du moins, en tout cas, que le désir est moins touché chez l'un que chez l'autre. Et à ce moment-là, d'en discuter, c'est pas simple. Et on le voit très bien, c'est extrêmement pas simple parce qu'on est partagé entre sauver l'amour d'un côté, comme disait Balavoine, il faut sauver l'amour, et d'un autre côté, le sexe, c'est, ben écoutez, ça passe un peu à la trappe.
Mais ça veut dire que vous nous dites qu'il y a toujours un petit déséquilibre, et c'est pas forcément l'homme qui a envie et la femme qui a plus envie.
Non, pas du tout. Ça, c'est, on est aujourd'hui dans une grande modification des comportements. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une domination masculine, enfin, je veux dire, on va pas se raconter l'histoire, c'est-à-dire que c'était l'homme qui structurait entièrement, et au fond, la femme était le réceptacle, quelque part, du désir de l'homme. Aujourd'hui, on a complètement changé, on est dans des rapports beaucoup plus d'égalité à l'intérieur des couples, et donc, au fond, le désir, il doit être partagé par les deux. Et c'est ça qui crée un peu une difficulté. Au fond, la liberté, c'est toujours plus difficile que d'obéir.
Et dites-moi, donc, mais si l'un des deux souffre, comment on gère la frustration de l'autre quand c'est soi qui n'a plus envie ?
Que nous a un peu évoqué Alexandra, je trouve que le témoignage était extrêmement fort et extrêmement réel. C'est-à-dire, au fond, il faut effectivement faire une démarche dans ces cas-là. C'est parce que le dialogue, un tiers va aider beaucoup à mettre ces discussions sur la table et à créer des solutions. Mais les solutions, il y en a plein. Après, on va le voir, si vous voulez.
Oui, on en parlera après.
Il y a dans
oui.
la distribution de l'emploi du temps, dans plein de choses. Parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. On est dans cette famine temporelle qui fait que les gens répondent à des urgences en permanence de vie, hein, que ce soit le boulot, la famille, etc. Et au fond, ce temps d'intimité, cette espèce de temps qui va créer la disponibilité, parce que quand le désir, comme je l'ai dit, n'est plus spontané, ça veut dire qu'il faut créer une disponibilité.
Et dites-moi, est-ce que vous diriez, on va conclure cette première partie-là, est-ce que vous diriez qu'on peut être un couple sans ne plus avoir sexualité ? Est-ce qu'on peut être heureux sans sexualité ?
Je peux vous dire que si tous les couples qui n'ont pas de sexualité se séparaient, il y en aurait beaucoup, on le saurait, ça serait un phénomène. Bien sûr qu'on peut vivre, elle l'a bien montré, on peut créer d'autres choses, le tout c'est la sérénité. Après, moi, mon idée, c'est qu'on ne peut pas éternellement, et c'est la question, quand vous avez demandé, est-ce que vous imaginez ne jamais plus faire l'amour, à ce moment-là, non. Ouais. Mais pendant des périodes, il faut accepter que le désir, par moment, peut jouer à cache-cache avec nous.
Restez avec nous, merci André Cormand. Nous avons 1000 questions encore à vous poser sur est-ce qu'il faut essayer de faire renaître le désir et comment. Dans quelques instants, nous allons accueillir Mathieu. Lui souffre de ne pas faire l'amour avec son compagnon, avec lequel il est depuis 2 ans.
Et un témoignage de Nadia, une jeune maman, qui nous écrit « Avant la naissance, nous avions encore quelques rapports avec mon compagnon et cela fait maintenant plus d'un an qu'il ne se passe plus rien. Lui voudrait bien, mais moi, dès qu'il me touche, je me crispe, je ne supporte plus, je n'ai même plus envie de bisous, de câlins, plus rien. » Une thérapie m'aiderait peut-être.
Europe 1.
Si vous aussi souhaitez réagir et partager votre expérience, hashtag Europe 1 sur Twitter, la page Facebook de l'émission, publiez vos commentaires ou encore le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Sans détour et sans atout, voilà, j'aimerais faire l'amour toute la nuit, tout le jour. L'amour avec toi, c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour, l'amour avec toi.
La version sexy du hit I Feel It Coming des Daft Punk et de The Weeknd, signé Juliette Armanet. Je te sens venir. Peut-on vivre heureux en couple sans faire l'amour? On vous pose la question cet après-midi jusqu'à 16h sur Europe 1, 3921 pour joindre Ève Roger. Partageons nos expériences de vie.
Et nous accueillons maintenant Mathieu. Bonjour Mathieu, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour, bonjour.
Quel âge avez-vous Mathieu? D'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 24 ans et je vous appelle de Toulouse.
Alors vous êtes en couple depuis 2 ans avec un compagnon, un homme. Au début, ça s'est bien passé. Vous faisiez l'amour une fois par semaine environ. Et puis,
oui,
comme Alexandra, petit à petit, ça s'est raréfié.
Voilà, exactement.
Et donc, ça fait 6 mois que vous n'avez rien fait ensemble, si je puis dire.
Voilà, c'est ça.
Alors, comment vous le vivez, vous ?
Pour moi, en tout cas, c'est compliqué parce que au début de notre relation, tout se passait plutôt bien. Et au bout d'un moment, ça a commencé à se raréfier et à chaque fois, ça devenait il y avait de plus en plus d'écart entre les relations.
De temps, et, oui.
Oui, voilà, c'est ça.
Et au moment, ça a commencé à créer des disputes, des tensions entre vous, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas forcément dans cette optique que mon copain a, du coup. Mais du coup, ça commence à poser problème.
Et qu'est-ce que vous réussissez à parler entre vous de ça?
Oui, on en discute souvent, mais justement, ça arrive souvent à des disputes.
Et c'est le dispute, c'est sur quel thème? Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai envie? Pourquoi t'as pas envie? Comment ça se manifeste?
Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que d'être avec quelqu'un qui a pas forcément envie, ça peut, enfin, moi, ça me provoque un peu de manque de confiance en moi. C'est assez compliqué, et du coup, y a des moments où c'est vrai que je pense qu'à ça, lui, pas du tout. Donc, l'écart entre nos deux comportements est assez compliqué.
C'est minant. Et alors, lui, parfois, il donne des excuses, c'est bien ça?
Oui, si on peut appeler ça des excuses. Après, bon, il pense surtout qu'il est asexuel.
Alors qu'il est asexuel, en un seul mot, pour nos auditeurs, ça veut dire?
Oui, donc c'est qu'il il n'aime pas le sexe, ça ne l'intéresse pas.
Et pourtant, au début, vous faisiez l'amour normalement, si je puis dire.
Oui, c'est ça, ça allait. Mmh. Mais après, j'ai appris au bout d'un moment qu'il avait, notamment quitté, son ex a été parti à cause de ça aussi, je ne suis pas la première personne avec qui ça arrive.
Et donc vous diriez que vous en souffrez beaucoup, et pourquoi finalement vous restez? Parce que vous êtes encore jeune.
Parce que... Oui, je suis encore jeune, c'est sûr, mais c'est quand même quelqu'un que j'aime beaucoup passer du temps avec, on a beaucoup de tendresse, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde, donc il n'y aurait pas ça, ce serait plus compliqué, mais...
Est-ce que vous avez un sentiment que lui a peur justement que vous partiez à cause de cette absence de vie sexuelle entre vous?
Pendant un moment, je sais qu'il ne s'en doutait pas, et un jour, je lui ai dit que ça devenait vraiment compliqué pour moi et que je risquais justement de le quitter probablement par rapport à ça. Sur le coup, il m'a dit qu'il s'y attendait pas du tout, donc ça l'avait surpris. Mais après, ça n'a pas forcément non plus énormément changé.
Et enfin, oui, c'était pas comme une menace, mais c'était plutôt comme l'expression d'une souffrance. Est-ce que vous, voilà. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je peux aller voir ailleurs, justement, pour combler cette frustration?
Ah, je me suis déjà posé la question, oui, c'est... Ça, je l'ai vu, on a déjà également parlé. Tout ce qui m'arrive, en tout cas, c'est je lui en parle vachement, je préfère en parler que me morfondre dans mon coin. Mais... Mmh.
Et alors, lui, il serait d'accord sur ça, que vous alliez voir ailleurs?
Non, ça serait compliqué, mais quand je dis, pour moi, penser aller voir ailleurs, c'est vraiment mettre un terme à la
relation. Ah oui, mettre un terme à la relation. Pas avoir d'autres relations sexuelles avec d'autres garçons.
Non, ça, je pourrais pas.
Pourquoi?
C'est pas du tout quelque chose qui... Parce que c'est pas... Enfin, pour moi, il faut des sentiments, et je peux pas avoir des relations sexuelles avec quelqu'un que je connais à peine, ça me correspond pas.
Et aujourd'hui, dans la balance, vous avez le sentiment que vous souffrez plus que des satisfactions, ou c'est l'inverse? Où est-ce que vous en êtes, Mathieu?
C'est compliqué. Bah après, ça fait tellement longtemps qu'au final, il y a des moments où on n'y pense même plus, mais c'est juste, c'est par séquence. Il y a des moments où je pense qu'à ça, après, il y a des moments, du coup, où ça part.
C'est-à-dire que ça fait 6 mois que vous n'avez pas fait l'amour, et il y a des fois, donc vous oubliez que c'est possible.
Oui, quasiment.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'être dans une forme d'impasse?
Un peu, oui, parce que c'est vrai que du coup, vraiment, à chaque fois qu'on en discute, on tourne en rond et ça ne bouge pas forcément.
Alors, je vais poser la question peut-être pour vous à André Cormand, médecin sexologue. Vous êtes toujours en ligne avec nous, de Toulouse aussi, c'est une coïncidence. Qu'est-ce que vous diriez? Que peut faire Mathieu? Que doit faire Mathieu? Est-ce que c'est la sexualité? Donc, est-ce que ça existe vraiment?
Alors, d'abord, pour lui répondre, il dit quelque chose d'extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il dit... Et ça, on retrouve tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'au départ, boum, le désir, il existe, c'est le désir de l'autre. Et puis après, c'est la relation à la sexualité qui va prendre le dessus. Et son compagnon, visiblement, il a une relation à la sexualité qui n'est pas extrêmement positive. Donc c'est difficile d'avoir le désir de quelque chose qu'on n'aime pas ou qu'on n'a pas investi. Alors la sexualité, c'est quoi? C'est quand on décide de ne plus avoir de sexe. C'est-à-dire que c'est une réponse, d'une certaine manière, à la complexité sexuelle. J'arrive pas à résoudre ce problème, Donc, je vais l'enlever. C'est-à-dire, je vais le mettre à côté. Je vais décider que c'est pas important, le sexe. Et à ce moment-là, effectivement, c'est ça, la sexualité. C'est-à-dire, c'est de dire, bon, mais c'est une décision. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec quelqu'un qui va se retrouver avec une impossibilité de faire l'amour parce qu'il a une pathologie, parce qu'il a, je sais pas moi, un problème d'érection, n'importe quoi. C'est un choix.
Donc, il faut ça peut être une thérapie qui peut répondre à cette, ce problème-là.
Absolument, mais c'est évident qu'il faut travailler sur cette relation au sexe qu'a son compagnon, le compagnon de Mathieu, c'est de toute façon, un tiers est nécessaire là, parce qu'au fond, eux, ils sont complètement dans l'affect amoureux, et la peur de perdre l'amour est plus forte que, beaucoup plus forte, comme je le disais tout à l'heure, que la peur de perdre le sexe. Donc, effectivement, ça crée un espèce de blocage, et ça crée des disputes quand ils vont en parler, alors que je pense qu'il faut voir un thérapeute et travailler cet aspect-là. Ça se travaille beaucoup, et croyez-moi, moi, enfin, je vois régulièrement des gens qui n'ont plus de sexualité qui, après avoir travaillé, ah non.
Donc c'est un message optimiste que vous donnez à Mathieu, c'est-à-dire on peut trouver des solutions. Et pour les couples qui ne sont pas celui de Mathieu, mais est-ce qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs méthodes pour faire naître le désir qui ne sont pas forcément des thérapies, qui sont peut-être des astuces que vous pourriez donner à nos auditeurs?
Alors absolument, mais de toute façon, la première chose à faire, c'est de ne pas refuser le problème. Si vous voulez, au fond, on éteint, si vous voulez, ce qui nous gêne. Le déni, c'est une façon assez claire de régler beaucoup de problèmes dans la vie.
Donc il faut parler.
C'est-à-dire qu'on le met de côté, on n'en parle pas, on a l'impression que ça disparaît, ça réapparaît. Et après, on s'organise. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez clair. Ils vont, celui qui a du désir, eh bien, il va peut-être avoir une sexualité solitaire, il va peut-être avoir un autre type. Mais en tout cas, il va se débrouiller comme il peut. Mais le fait d'affronter dans la relation la complexité de la sexualité, l'aide d'un tiers est vraiment, c'est pas forcément une thérapie, si vous voulez, ça peut être un simple coaching, ça peut être des conseils, comme vous dites. Moi, je crois que les conseils, c'est surtout d'abord de prendre conscience, et beaucoup de vos témoins l'ont dit, il faut déculpabiliser. La première chose à faire, c'est pas de se vivre comme un anormal.
Alors, j'aime bien, un de vos conseils que vous donnez, c'est dire comme on organise son emploi du temps, il faut une journée par semaine ou tous les 15 jours, on dit ça, ce soir, c'est pour toi. C'est pour nous, et on parle de tous les sujets pour lesquels on pourra se disputer pour enfin arriver à l'amour et au sexe. Hein, c'est ce que vous dites.
Oui, absolument. Il faut avoir ces moments d'intimité partagés où on est un peu hors du tabou. Il y a un moment donné, un témoin, vous avez posé la question à excuse. C'est effectivement, toujours, on va trouver dans la vie quotidienne l'excuse de quelque chose qu'on considère comme honteux, de ne pas avoir de sexe. Mais en réalité, c'est pas forcément, c'est souvent des alibis. C'est comme les femmes ménopausées, souvent, qui disent « j'ai plus de désir ». En fait, elles ont plus de désir, pas uniquement à cause de la ménopause, mais aussi parce que, tout simplement, peut-être qu'elles n'avaient pas assez de satisfaction dans leur vie. Donc, pour avoir envie de quelque chose, il faut que... C'est Aristote qui a une jolie parole, il dit « le désir, c'est l'appétit de l'agréable ». Donc, si on n'aime pas le sexe, c'est sûr qu'il y a des chances qu'on n'en ait pas envie.
Alors, on retient, le désir, c'est l'appétit de l'agréable. Merci beaucoup, André Cormand, médecin sexologue et directeur de l'enseignement de sexologie à la Fac de Toulouse. Merci aussi infiniment à Mathieu pour son témoignage si touchant. On espère qu'il va trouver une solution pour son compagnon. Dans quelques instants, nous serons avec Marie, qui, elle, a trouvé une solution. Elle va de temps en temps voir ailleurs avec l'accord de son mari.
Votre témoignage, Ève, celui de Thierry, qui nous dit « Avec les années, les corps changent, les goûts sexuels aussi. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde avec mon partenaire. La tentation d'aller voir ailleurs. Point de suspension.
Europe 1.
Continuez à nous faire part de vos témoignages sur la page Facebook de l'émission. Partageons nos expériences de vie sur Twitter aussi avec le hashtag Europe 1 ou encore 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute.
15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1.
Quand je suis face à toi, je m'incendie. Je sais que j'existe et je me sens jolie. Je suis nue devant toi, je m'électrifie. Le désir m'affole, me saisit, mais que...
hommage aux femmes au travers de chansons intimes et charnelles qu'on trouve dans l'album À nos corps aimants d'Olivia Ruiz. Et cette chanson a le même titre, À nos corps aimants. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1. Partageons nos expériences de vie cet après-midi. On parle des couples qui ne font pas ou plus l'amour. Est-ce qu'on peut vivre heureux ensemble sans sexualité? Intervenez au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour.
Marie, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 35 ans et j'appelle d'à côté de Toulouse.
Ah oui, c'est une émission toulousaine, encore une fois une coïncidence. Alors vous êtes en couple depuis 9 ans avec le même homme, vous avez un enfant de 6 ans ensemble et vous avez commencé avec une sexualité dite normale, 1 à 2 rapports par semaine, c'est ça?
Oui.
Et puis
oui.
Au bout de 3 ans, eh bien, vous avez trompé votre mari parce que vous ne faisiez plus assez l'amour ou parce que vous faisiez l'amour de manière un peu trop classique à votre goût?
À aucune des deux réponses. Ah. Plutôt, je dirais même pas que je l'ai trompé. J'ai profité d'une opportunité et d'une envie sans me poser la question et sans culpabilité. Voilà.
Mais sans... Parce que vous continuiez à faire l'amour avec votre mari, ça n'avait rien à voir avec une frustration quelconque.
Aucune. aucune. Et ça a même ajouté quelque chose à la relation.
C'est ça. C'est-à-dire que vous l'avez dit à votre mari et cette expérience a enrichi votre relation d'une certaine façon.
C'est ça.
Alors, dans quel sens? Comment?
Alors, dans le sens où, en fait, moi, j'ai passé un agréable moment et cette énergie assez joyeuse et assez libérée et cet effet galvanisant, je l'ai rapporté, on va dire, dans le couple. Et d'une certaine façon, il a pu en profiter, on va dire.
Mmh. Et il n'y voyait pas d'inconvénient, de problème? Enfin, ça ne l'a pas choqué?
Choqué, non, parce que il me connaît. mais par contre, ça a pris du temps à faire son chemin, à être digéré, à qu'est-ce qu'on fait de cette patate chaude, on va dire.
Mmh.
Et puis, c'est en parlant petit à petit que finalement, quand on est devant le fait accompli, bah, finalement, on se rend compte que c'est pas forcément un problème.
Ouais,
que
c'est pas forcément un drame.
Voilà, et que c'est justement en se confrontant à ses propres peurs et à ses propres envies intimes qu'on peut avancer, alors que dans un couple, on va dire monogame, c'est pas forcément, on se pose pas forcément de questions, on suit une autoroute tracée sans prendre le temps de se poser des questions.
Mais qu'est-ce qui vous motivait au fond? Pourquoi vous êtes allé voir ailleurs? C'est un peu trivial, ma façon de le dire.
Je suis pas allée voir ailleurs, c'est-à-dire que je passais une soirée avec des amis et il s'est avéré qu'à un moment donné, j'ai eu cette opportunité et cette envie-là que j'ai suivie sans me poser de questions. Donc c'était pas aller voir ailleurs, c'était profiter. Comme si j'étais déjà dans un couple libre alors que c'était pas le cas.
Alors aujourd'hui, maintenant, vous êtes justement dans un couple libre. Alors ça veut dire quoi concrètement?
Concrètement, ça veut dire qu'on se laisse l'opportunité chacun de pouvoir vivre quelque chose d'intime en dehors du couple, on va dire.
Oui.
Que ce soit avec une personne du même genre ou pas que nous, et que ce soit dans une relation classique avec une sexualité classique ou une sexualité plus BDSM. Donc
alors BDSM, pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant?
Bondage, sado, masochisme,
d'accord,
etc.
Mmh.
Donc, il sera plus des relations avec des jeux de pouvoir.
Ouais.
Et de l'ordre d'une sexualité qui n'est pas forcément avec pénétration, etc., mais qui est plus de l'ordre du jeu.
Alors, ce qui est frappant, c'est que votre mari, lui, il est plutôt romantique et il a plutôt une sexualité classique. Alors, comment vous jonglez, j'allais dire, entre les deux formes de sexualité?
Lui, il a une sexualité classique, mais plus trop, en fait, puisque forcément, étant donné qu'on explore aussi chacun de nos côtés des jeux, on rapporte ça dans notre relation aussi. Donc voilà, par contre, lui, il a un côté beaucoup plus romantique, ça c'est sûr.
Mais est-ce que vous faites tout ça parce que vous avez peur de vous ennuyer, finalement, de la routine dans le couple?
Non, c'est pas de la peur, je pense, c'est juste que je suis... je suis quelqu'un qui aime bien explorer et que c'est une façon aussi de se connaître soi. Et je pense que si on n'avait pas fait ce chemin, on se connaîtrait beaucoup moins, en fait. Parce que forcément, il nous est arrivé de chercher, par exemple, un troisième ou une troisième partenaire pour venir jouer avec nous. Et forcément, on découvre aussi une part de l'autre et de soi quand on, bah, quand on, quand on choisit quelqu'un d'autre et on discute de ça. Oui, toi tu la trouves comme ça, mais toi tu chercherais quoi? Mais est-ce que tu te verrais faire ça avec un autre mec ou pas? Et en fait, c'est ces moments-là qui sont super intéressants, c'est justement d'aller...
C'est cette liberté, Marie, qui vous a permis justement d'évoluer, d'avancer, de faire connaissance mieux avec vous-même et votre compagnon. Vous pensez que votre couple n'aurait pas tenu si vous étiez interdit ce genre d'expérience?
Ah, je ne peux pas savoir, mais par contre, je sais que ça me convient. Et qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre il y a 9 ans, donc, où j'étais moi, enfin, on était déjà chacun dans une dynamique un peu de rencontrer beaucoup de monde et de passer des nuits, enfin, des soirées... juste sans revoir la personne. Du coup, je pense que ça nous convient. Je sais pas si ça... Je sais pas. Moi, je pense que ça me convient comme ça.
Bon, voilà. Tant mieux. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage qui pourra peut-être aider certains de nos auditeurs. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir Brigitte, qui a 64 ans et qui a beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à faire l'amour avec son mari qu'à l'époque où ils étaient plus jeunes.
Autre témoignage d'une auditrice qui nous écrit « Cela fait 12 ans que je vis avec mon mari, nous avons 3 enfants, il ne veut plus avoir de rapport. Il dit que le sexe n'est plus une nécessité dans sa vie, mais il me reproche de ne pas être assez câline. Je lui ai proposé de consulter un sexologue, il ne veut pas. Le problème vient de moi, selon lui. Je l'ai trompé 3 fois, ça ne me satisfait pas pleinement, mais c'est la seule solution pour avoir une vie sexuelle. »
Europe 1.
Vous aussi, vous pouvez réagir et nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 sur Twitter ou encore sur la page Facebook de l'émission. Heureux en couple sans faire l'amour. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger, et avec un dernier appel au 39-21.
Et oui, pour conclure cette émission, nous sommes en ligne avec Brigitte. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous, Brigitte, et d'où nous appelez-vous?
64 ans, je vous appelle du Cap-Fréhel.
Du Cap-Fréhel, c'est-à-dire en Bretagne. Dites-moi, Brigitte, votre mari, vous, était navigateur. Il partait régulièrement pour de longues périodes de 3 mois. Et quand il revenait, eh bien, naturellement, il avait envie de faire l'amour. Et vous, pas?
Alors, c'est-à-dire que non, pas moi, parce qu'on s'habitue à être seul. Et en fait, la relation épistolaire presque me satisfaisait. Mais par contre, le retour, c'était le retour du guerrier qui... Bah, qui devait prendre sa femme, entre guillemets.
Ouais.
Et il y avait un côté un peu où j'avais l'impression de pas... Pour moi, il aurait fallu refaire connaissance.
Ah oui.
Et c'était presque une visite intrusive.
Ah oui, vous aviez perdu l'habitude d'une certaine façon.
Oui, oui, ou plutôt, oui, cette notion d'être visitée après de longs mois.
Ouais.
Et comme on était jeune marié, comme mon mari était le premier,
ouais,
il y avait ce côté digne de non-habitude, quoi.
Mais est-ce que vous osiez à l'époque lui dire non?
La fougue du retour était...
Il n'y avait pas de fougue.
Il y avait beaucoup plus de lenteur. Ouais.
C'est ça, il n'y avait pas de fougue de votre côté. Donc est-ce que vous pouviez lui dire non ou, je ne sais pas, à votre âge, vous n'osiez pas lui dire non?
Je ne disais pas, non, je ne disais pas non.
Ah oui, c'est ça, vous étiez un peu obligé, si je peux le dire trivialement, de passer à la casserole quand il revenait.
Tout à fait.
Voilà. Et qu'est-ce que ça vous provoquait chez vous? C'était de la tristesse
Un peu de l'incompréhension, surtout que les désirs n'étaient pas au même, les attentes n'étaient pas au même niveau. Et comme disent souvent les gens, l'homme a besoin de... pour se sentir bien, de faire l'amour. Et une femme a besoin d'être bien pour faire l'amour.
Eh oui. Et donc finalement, vous étiez un peu aussi, vous nous dites, un peu inhibée sexuellement depuis le début. C'est-à-dire que ce n'était pas votre affaire, le sexe.
Alors, il y avait surtout le fait que 2 ans après notre mariage, nous avons eu un premier enfant qui a eu des problèmes d'accouchement et vit avec un handicap lourd. Et pendant... Surtout à partir de l'adolescence, je crois, tant que notre fille était petite, de s'occuper de son corps, des soins, etc., c'était encore un corps enfantin. À partir du moment où elle est devenue plus sexuée, c'est vrai que toute la partie en dessous du ventre, c'était faut laver, faut nettoyer, faut que ça sente bon, c'est presque faut se soit rangé, emballé, point. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu le même sentiment de ma propre sexualité. Et je ne supporte pas les odeurs, je ne supporte pas...
Vous n'aimiez pas ça, quoi? Vous n'aimiez pas ça?
Non, j'avais beaucoup de difficultés.
Ce que je voulais vous dire, c'est au début, donc ça a été une vie sexuelle qui a été difficile avec votre mari, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, à 64 ans, presque ça va mieux parce que vous avez mis un peu de légèreté dans votre sexualité. Oui. Comment ça s'est passé?
Tout à fait. Pas parce que le temps apaise les choses, parce qu'on réfléchit sur soi, parce que on fait tomber peut-être aussi des égos ou des et puis je crois aussi que le rire, l'humour aide beaucoup quoi. Maintenant ça me pose aucun souci d'être de verbaliser le fait d'être une bonne tisane du soir.
Vous dites à votre mari, je suis ta tisane ce soir.
Oui, oui, ou de dire en rigolant, oui, je suis ta tisane, hein, c'est ça. Et puis je trouve qu'en vieillissant, on est aussi bien emballé que déballé. Mais bon, les plis de chacun sont la vie, quoi. Je veux dire, ce sont les rides du corps. Mais bon, c'est pas. Et peut-être aussi que cet aspect où on est moins dans pas la performance mais même le regard où en fin de compte ce qui compte c'est ce qu'on se donne de chaud, c'est la douceur d'une main, c'est ce que d'être niché, c'est ça sécurise et je crois que moi ça me convient mieux.
Et Brigitte, ça veut dire que quand même, est-ce que vous prenez aujourd'hui du plaisir à faire l'amour de temps en temps?
Oui.
Plus que quand vous étiez plus jeune?
Oui.
Et votre mari doit être plus heureux aussi, non?
Oh ben oui, hein.
Bon, on peut imaginer qu'une femme qui a envie, c'est mieux qu'une femme qui n'a pas envie, non?
Complètement, complètement.
Bon, en tout cas, merci Brigitte de nous avoir fait partager votre expérience. Merci aussi à Alexandra, Marie, Amandine et Mathieu de nous avoir raconté ces épisodes très intimes de leur vie. Et à André Cormand pour son éclairage si précieux. Grâce à lui et grâce à tous vos témoignages, on aura compris que le désir dans un couple va et vient, qu'il y a des périodes avec et des périodes sans, qu'il ne faut pas s'inquiéter trop vite, trop tôt, peut-être pas avant 6 mois d'abstinence en tous les cas, et puis qu'aucun couple ne ressemble à aucun autre, que chacun a sa propre vie intime, sa propre sexualité en fonction de son histoire personnelle. Peu importe si l'on a peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout de rapport sexuel, ce qui compte, c'est l'épanouissement, le bien-être de chacun et du couple. Mais si l'un ou les deux souffrent du manque de sexualité, il existe des solutions. Allez voir ailleurs si tout le monde est d'accord ou consulter un sexologue si besoin. En tout cas, il faut parler, en parler avec l'autre, car à coup sûr, ce sont le silence et l'incompréhension qui tuent le couple plus que l'absence de relations sexuelles.
Et vous pouvez continuer à en discuter, bien sûr, sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Demain, nous parlerons du pro bono. Alors, ce n'est pas un gros mot, c'est le phénomène qui consiste à prendre quelques heures par semaine ou par mois sur son temps de travail pour mettre ses compétences professionnelles au profit d'une bonne cause. Alors, si vous êtes avocat et que vous prenez parfois des dossiers gratuitement pour aider des personnes dans le besoin, si vous travaillez dans une agence de publicité qui fait parfois des campagnes pour des associations, des ONG sans les faire payer, ou si vous êtes une association qui bénéficie de ce pro bono, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons votre appel. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation à haut risque de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation. Et merci beaucoup à vous, Marlène.
Oui, ce fut un réel plaisir, Eve.
Merci. Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Laissez-vous emporter, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.